Et c'est le journal de la rédaction présenté par vous, Aurélie Kiefer, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Faut-il prendre de nouvelles mesures dans les établissements scolaires pour freiner l'épidémie de Covid-19 ? Bénédicte Robin nous rassure dans un instant. Moins de faillites d'entreprises en 2020 qu'en 2019, c'est a priori une bonne surprise, mais il faut se méfier. Ce sera le thème du dossier, signé Marie Viennot. Rapprochement envisagé entre Carrefour et le Canadien Couche-Tard, deux groupes très dissemblables, mais qui ont une volonté commune d'expansion, analyse d'Anne-Laure Jumet. Aux États-Unis, la Chambre des représentants débat sur une nouvelle mise en accusation de Donald Trump, correspondance de Franck Madvon. Et puis Israël mène son attaque la plus meurtrière en Syrie depuis le début du conflit. Explication de Christian Chéneau. Notre stratégie vaccinale va se déployer. Elle monte en charge, assure Jean Castex. Interpellé lors de la séance de questions au gouvernement, le Premier ministre a estimé que la France n'avait pas à rougir de sa stratégie de lutte contre le Covid-19. Mais l'inquiétude est forte, notamment avec l'arrivée en France du variant britannique plus contagieux. Le Conseil scientifique ne juge pas nécessaire pour l'instant de fermer les écoles. Mais faut-il prendre des précautions supplémentaires, fermer les cantines par exemple ? Que disent les spécialistes, Bénédicte Robin ?
Eh bien, par définition, la cantine est un lieu de rencontre, on ne porte pas de masque, on se parle et donc le risque de contamination est plus élevé, c'est un fait. Mais des protocoles sanitaires stricts ont été mis en place, rappelle Florence Delannoy. Elle est la secrétaire générale adjointe du SNPDEN, le principal syndicat des chefs d'établissement et elle-même proviseur d'un lycée.
Si je prends un exemple qui est celui de mon établissement, actuellement au restaurant scolaire, les élèves mangent espacés d'une place en latéral et sans vis-à-vis. Donc on est sur des protocoles qui sont bien plus sûrs que ce que pourrait donner un lycéen allant acheter un sandwich à emporter et à le manger dans la rue avec ses copains.
Et d'ajouter donc que fermer les cantines serait même contre-productif.
Ça entraînerait des conséquences sociales assez dramatiques et ça entraînerait la quasi-fermeture des établissements parce qu'on a beaucoup de lycées qui sont avec des élèves transportés, on a des lycées qui sont dans des zones rurales où il n'y a pas d'espace de restauration disponible, etc.
Pour les plus petits, primaires et maternelles, les enjeux sont assez similaires. Le déjeuner à la cantine peut aussi être le seul vrai repas de la journée. Contraindre les parents à venir chercher leurs enfants à midi peut également mettre certaines familles dans des situations très compliquées. Et tout cela pour des raisons finalement peu pertinentes, à entendre Véronique Engen, pédiatre infectiologue à l'hôpital de Versailles.
Depuis le début de l'épidémie, toutes les études qu'on a faites jusque-là montrent que l'enfant est moins contagieux que l'adulte. Sa source principale d'infection, c'est les adultes qui l'entourent. Donc l'enfant doit être les derniers à avoir des restrictions parce que les restrictions chez eux ont des conséquences majeures. Et ça, nous, on voit une nette augmentation des troubles psychiatriques, des tentatives de suicide, des troubles anxieux, des phobies scolaires, de la maltraitance, sans parler même du décrochage scolaire. Donc clairement, l'enfant a besoin de continuer la vie la plus normale possible, le plus longtemps possible.
Et sachant que jusqu'à présent, aucune cantine scolaire n'a été détectée comme l'origine d'un foyer de contamination.
Bénédicte Robin, la lutte contre le Covid-19 n'est pas la seule priorité de l'exécutif. C'est le message qu'Emmanuel Macron a voulu faire passer en réunissant le gouvernement en séminaire aujourd'hui. Le chef de l'État a fixé l'agenda des réformes des prochains mois avec l'idée de continuer à agir et transformer à l'approche de la présidentielle de 2022 et un baromètre d'évaluation doit permettre de mesurer l'efficacité de ces réformes, Antoine Marette.
Ce baromètre est un site internet censé montrer aux Français que le gouvernement améliore leur quotidien à leur échelle. On est donc invité à saisir le numéro de son département et on obtient des résultats chiffrés sur des sujets aussi variés que l'environnement, la culture, l'emploi, la sécurité, le handicap, le logement ou encore l'éducation. Par exemple, le nombre de kilomètres de pistes cyclables en 2017, actuellement, est l'objectif pour 2022. La ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, défend l'idée de transparence.
Nous avons 18 mois d'action utile devant nous. Ce sont 18 mois pendant lesquels nous allons pouvoir, avec les administrations, avec les élus locaux, avec l'ensemble des acteurs, territoire par territoire, débloquer ce qui doit être débloqué. Faire travailler les administrations avec efficacité, tourner vers les territoires, tourner vers les résultats. Nous assurer que nous ne conformons pas à ce qu'est la photo que nous livrons aujourd'hui, mais que nous accélérons pour que tous les Français, dans tous les territoires, sur tous les enjeux politiques, voient les choses changer. Le président l'a toujours dit, nous allons transformer le pays, nous vous en rendrons compte et nous n'oublierons personne.
Ce baromètre ressemble donc à une sorte de service après vote, un outil qui pourrait se révéler bien pratique en cas de nouvelle candidature d'Emmanuel Macron en 2022. Cette auto-évaluation pourrait alors prendre l'allure d'auto-promo.
Antoine Marette, difficile de crier victoire en ce moment en pleine crise sanitaire. L'activité économique a effectué une chute vertigineuse en 2020 avec 11% de récession sur l'année. Paradoxalement, les entreprises sont moins nombreuses à faire faillite qu'en 2019. Alors cela s'explique par les aides d'État qui maintiennent les entreprises à flot. Aides qui ont aussi un effet anesthésiant et cela inquiète les professionnels qui accompagnent les entreprises, Marie Viennot.
Experts comptables, directeurs financiers, administrateurs judiciaires, juges des tribunaux de commerce, tous disent la même chose. Les aides Covid ont mis les entreprises à l'abri des problèmes de trésorerie, ce qui explique qu'elles ne fassent pas faillite, même sans chiffre d'affaires. Mais attention, le réveil sera brutal. Pousser la porte d'un tribunal de commerce peut être un moyen d'anticiper les difficultés, ce que ne font pas les chefs d'entreprise en temps normal et encore moins aujourd'hui. Olivier Buzine, président de l'Institut français des praticiens des procédures collectives.
Il y a un peu un tabou autour des difficultés des entreprises et que c'est compliqué pour un chef d'entreprise de se tourner vers une juridiction et d'avoir un regard extérieur sur sa propre entreprise. Donc la plupart des entreprises, il faut l'espérer, s'en sortiront en étalant leur dette, j'allais dire, sans besoin d'aide extérieure. Mais disons-le aussi, il y a des outils qui existent pour traiter les dettes qui vont s'accumuler et qui naissent mois après mois dans la période Covid.
Administrateurs judiciaires, tribunaux de commerce, c'est encore synonyme d'antichambre de la mort pour beaucoup de patrons, explique un dirigeant patronal qui reconnaît que cette image ne cadre plus totalement avec la réalité. Depuis une dizaine d'années, les entreprises qui voient venir les problèmes peuvent faire appel au mandat ad hoc ou la conciliation de procédures confidentielles sans engagement qui permettent de négocier des étalements, voire des annulations de dettes sous l'égide d'un tiers. Dans 6 cas sur 10, c'est un succès. Il est donc crucial de diffuser ces informations en ce moment même, estime Christophe Bass, président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires.
Nous, ce qu'on ne veut pas voir demain, c'est tous ces petits fonds de commerce dans les centres-villes. On va avoir un chef d'entreprise, un boulanger, un coiffeur, qui va venir nous voir pour nous dire « Attendez, j'ai perdu mon droit au bail parce que je n'ai pas payé mes loyers. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» On ne peut plus rien faire. Or, ce chef d'entreprise, ce boulanger, ce coiffeur, quelques mois auparavant, serait venu nous voir, on aurait mis en place une procédure confidentielle, on aurait trouvé ou forcé le bailleur à donner un accord de règlement, un moratoire, un délai, une franchise de paiement pour préserver l'outil de production.
Parfois, ce n'est pas la peur qui empêche les chefs d'entreprise de solliciter les tribunaux, mais un excès de confiance, constate Guy De Georges, directeur administratif et financier pour des PME.
D'expérience, à force de travailler sur les chefs d'entreprise, je crois que les chefs d'entreprise sont toujours confiants. On a un biais d'optimisme chez les entrepreneurs, et donc ils surestiment toujours ses talents et ses chances de réussite. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que sinon, on aurait franchement, vu les risques, on n'aurait plus d'entrepreneurs si on n'avait pas ce biais d'optimisme. Mais c'est un biais d'optimisme qui est particulièrement dangereux en situation de crise, puisqu'on a des chefs d'entreprise qui se disent « ça ira mieux, le chiffre d'affaires va remonter » et qui ne prennent pas forcément les mesures structurelles pour retrouver de la rentabilité.
Prévenir plutôt que faillir, voilà l'enjeu, d'autant plus grand qu'une entreprise qui fait faillite peut entraîner avec elle d'autres faillites. C'est un sujet de préoccupation majeure, confirment Bercy et le ministère de la Justice. Une mission à ce sujet a été lancée en octobre. Elle doit rendre ses préconisations à la fin janvier.
Un dossier signé Marie Viennot. Le titre Carrefour a bondi en bourse, conséquence de l'annonce d'un projet de rapprochement entre le géant des grandes surfaces et le distributeur canadien Couche-Tard. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
L'offre est amicale, mais elle surprend parce que ces deux groupes n'ont a priori pas grand-chose en commun. Alors.
Oui, il y a très peu de synergie à attendre d'un tel mariage, notent les experts de la grande distribution. D'un côté, donc, vous avez Alimentation Couche-Tard. C'est lui qui lance cette proposition de rachat. Spécialiste des épiceries de proximité ouvertes 7 jours sur 7, adossée à des stations-service. La vente de carburant représente d'ailleurs 70% de son chiffre d'affaires. Et puis vous avez de l'autre côté Carrefour, géant de la grande distribution, qui réalise l'essentiel de ses ventes dans les hypermarchés, même s'il tente de s'affranchir de cette dépendance en développant les magasins de proximité. Sur le plan géographique, pas de chevauchement non plus, à part en Pologne. Couche-Tard l'a démontré via d'autres rachats. Il poursuit une logique d'expansion. Deux groupes donc davantage complémentaires que concurrents. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les salariés de Carrefour. Ils sont 100 000 en France. Couche-Tard n'est en effet pas implanté dans l'Hexagone, comme le souligne Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine spécialisé LSA.
Étant donné qu'ils ne sont pas en France, effectivement, il n'y aura pas de doublons de sièges sociaux. Il n'y aura pas de doublons logistiques. Il n'y aura pas de suppression de magasins parce qu'ils sont en face à face. Donc déjà, ça peut et ça doit rassurer les salariés de Carrefour. D'autant plus, encore une fois, pour l'instant, c'est juste les prémices d'une éventuelle discussion.
Le groupe canadien qui est à l'origine donc de ce projet se montre lui-même prudent. Aucune certitude, dit-il, sur le fait que ces discussions débouchent sur un accord. Il propose de valoriser Carrefour à plus de 16 milliards d'euros, 4 milliards de plus qu'aujourd'hui. Il en a les moyens, lui qui pèse deux fois plus que le groupe d'Alexandre Bompard en bourse.
Anne-Laure Jumet. Elisabeth Guigou renonce à présider la commission indépendante sur l'inceste. L'ancienne garde des Sceaux a pris cette décision après avoir été cité parmi les proches d'Olivier Duhamel, accusé de viols incestueux, par sa belle-fille Camille Kouchner. Le climat actuel ne me permet pas de conduire cette mission avec la sérénité nécessaire, déclare Elisabeth Guigou. Elle affirme avoir ignoré toutes ces années les faits gravissimes dénoncés par Camille Kouchner dans son livre. La ville de Washington est placée sous très haute sécurité. Un vote historique est prévu aujourd'hui à la Chambre des représentants en vue de la destitution de Donald Trump, processus engagé à cause du discours du président sortant encourageant l'assaut contre le Capitole. Le vote sur l'acte d'accusation est précédé d'un débat que vous suivez actuellement, Franck Madvon.
Oui, et ce débat est animé, Aurélie, à la Chambre des représentants. La grande majorité des élus républicains s'opposent à cette procédure d'impeachment pour des raisons différentes. Certains défendent clairement Donald Trump, d'autres estiment que ce n'est pas le moment, que l'heure est à un transfert paisible du pouvoir ou encore que la procédure va trop vite. Les démocrates, bien sûr, contestent ces arguments, parfois avec vigueur. Voici Jim McGovern, élu du Massachusetts.
Les gens devraient être révolté par ce qui s'est passé. C'est impardonnable. Le président des États-Unis a été l'instigateur d'une tentative de coup d'État. Des gens sont morts. Chacun devrait être révolté, démocrate et républicain. Et si ce ne sont pas des motifs de destitution, c'est quoi? Ce président n'est pas apte à rester en fonction.
Des républicains sont tout de même sensibles à ces arguments. Donald Trump a perdu le soutien de plusieurs élus de son propre camp ces derniers jours. Au moins 5 vont voter pour la mise en accusation. Parmi eux, Liz Cheney, une figure importante du parti. C'est la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney. Et au total, 10 à 20 républicains pourraient voter contre Trump. Prochaine étape, le Sénat, où se tiendra le procès. Et là aussi, les républicains s'interrogent. Une condamnation semble possible.
Franck Madvon, en direct de Washington avec Alexandre Abergel à la technique. Tollé contre WhatsApp, la mise à jour des conditions d'utilisation de la messagerie ne passe pas chez beaucoup des 2 milliards d'utilisateurs de WhatsApp dans le monde. Ils sont nombreux à passer à la concurrence. L'américain Signal et le russe Telegram sont en tête des téléchargements sur les smartphones depuis une semaine. WhatsApp va en effet communiquer plus de nos données personnelles à sa maison mère, Facebook. Des questions légitimes se posent, hein, Maxime Tellier, sur les conséquences de ce monopole toujours plus grand que souhaite acquérir Facebook.
Oui, Facebook était déjà une régie publicitaire redoutable et incontournable, mais en voulant partager nos données personnelles de WhatsApp avec le reste de son écosystème, le réseau social veut devenir encore plus monopolistique. Le but est désormais de faire payer les entreprises pour qu'elles puissent nous contacter sur WhatsApp ou sur Messenger dans le cadre d'un service client, par exemple. Et c'est peut-être l'étape de trop, vu le tollé déclenché. Alors, pour des raisons différentes selon les pays, aux États-Unis, la critique se fait surtout au nom de la défense de la libre concurrence. Des élus démocrates voulaient d'ailleurs déjà démanteler Facebook à cause du monopole qu'il détient, empêchant l'émergence de nouveaux acteurs. Mais d'ailleurs, c'est aussi la protection de la vie privée qui est en jeu. Telegram, Signal, beaucoup d'utilisateurs choisissent des applications réputées plus protectrices. Et c'est une démarche saine, estime Olivier Kempf. Il est chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique.
Ce sont les usages qui font la popularité. Ça, c'est une des caractéristiques du monde numérique. Cela étant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise de conscience générale. Et donc, moi, j'ai reçu plusieurs messages de correspondants qui me disent « Bonjour, je quitte WhatsApp, je suis sur telle plateforme. Et dorénavant, pour converser avec moi, vous passez par telle plateforme. » C'est finalement ça qu'il faut faire, c'est-à-dire réduire l'universalité de plateformes qui ne sont pas chez nous. Et on voit bien qu'il y a un mouvement qui se dessine. Je crois vraiment que nous avons intérêt, collectivement, au-delà de questions de souveraineté numérique, de défendre nos libertés publiques, et mieux vaut reposer sur nous que sur les autres.
Et en France, des applications de messagerie sécurisées existent, hein, comme Citadel ou encore Olvid. Mais la question qui demeure, c'est le modèle économique de ces concurrents. Comment gagnent-ils de l'argent et ont-ils intérêt à terme à faire comme WhatsApp? C'est une question qui se pose pour Insta, pour Telegram et Signal, mais c'est une question qui reste en suspens pour l'instant.
Maxime Tellier, l'État irlandais présente des excuses officielles au sujet du scandale des anciennes maisons pour mères célibataires. Entre 1922 et 1998, quelques 9000 enfants, considérés comme des parias, sont morts dans ces établissements tenus par des religieuses catholiques et l'État. Le chef du gouvernement a fait une déclaration devant le Parlement irlandais, compte rendu d'Emily Devin à Dublin.
L'État vous a fait défaut, a admis Miracle Martin en s'adressant aux survivantes des maisons pour mères célibataires.
Je présente mes excuses pour les torts générationnels causés à ces mères irlandaises et à leurs enfants. L'État irlandais, en tant que financier de ces institutions, avait le devoir de les contrôler. Il ne l'a pas fait.
Le Premier ministre s'est dit profondément choqué par les conditions de vie dans ces institutions. Il a rappelé la responsabilité de la religion aussi et de la société dans son ensemble.
Nous avons adopté une morale religieuse et un contrôle pervers, des certitudes morales et des jugements. Nous avons méprisé nos filles. Nous nous disons pieux, mais nous avons échoué à ne montrer ne serait-ce qu'une once de gentillesse à ceux qui en avaient le plus besoin.
Le primat d'Irlande a présenté ses excuses sans réserve, mais l'Église ne devrait pas participer au dispositif annoncé par le gouvernement, la prise en charge de la sécurité sociale des survivantes, l'ouverture des registres pour permettre aux enfants d'identifier leur mère biologique et la mise en place d'un travail de mémoire nationale.
Émilie Levin à Dublin. Israël a mené des raids au petit matin contre des positions militaires en Syrie. Depuis le déclenchement de la guerre chez son voisin syrien en 2011, l'État hébreu a mené des centaines de frappes contre des forces du régime et des miliciens pro-iraniens. Mais ces nouvelles attaques, qui ont fait au moins 57 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, est la plus meurtrière menée par Israël dans le pays, Christian Chesneau.
Alors que l'aviation israélienne multiplie ces derniers jours les survols du territoire libanais pour surveiller les activités du Hezbollah, en Syrie, elle pilonne tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à une présence iranienne du Parti de Dieu libanais ou encore des milices chiites irakiennes. Cette dernière frappe, la plus meurtrière réalisée par Israël depuis le début du conflit en Syrie en 2011, a visé des dépôts d'armes et des positions de l'armée de Bachar al-Assad dans l'est du pays, à Deir ez-Zor, Boukamal et Mayadin, où sont aussi stationnés des miliciens pro-iraniens de différentes nationalités. L'agence officielle syrienne Sana a fait état de frappes nocturnes, sans fournir de détails. Côté israélien, c'est le silence radio. Apparemment, des livraisons d'armes venant d'Iran auraient été effectuées récemment dans cette région frontalière proche de l'Irak, où des éléments clandestins du groupe État islamique sont en train de refaire surface. Pour Israël, pas question de laisser s'installer un corridor d'approvisionnement en armes venant de Téhéran. Au moindre soupçon, des raids sont immédiatement déclenchés. En 2020, Israël a frappé une cinquantaine de cibles en Syrie. D'après un rapport annuel publié par l'armée israélienne, les dernières frappes ont eu lieu il y a moins d'une semaine.
Christian Chesneau, en Inde, des dizaines de milliers d'agriculteurs campent toujours aux alentours de New Delhi. Le blocage de la capitale dure depuis maintenant un mois et demi. La colère des agriculteurs a été provoquée par trois lois qui facilitent la privatisation du secteur agricole. Alors la Cour suprême vient d'intervenir, elle a décidé de suspendre ces lois. Le problème est-il résolu? Pas si sûr, nous dit Sébastien Farcy à New Delhi.
Cette suspension des lois représente l'avancée la plus significative depuis le début de cette contestation d'agriculteurs, il y a environ 6 mois, et cela réjouit les milliers de manifestants qui campent autour de New Delhi. Ils s'opposent à cette réforme car ils craignent que cette libéralisation du secteur ne les laisse à la merci des grandes entreprises agroalimentaires. Mais leur soulagement n'est que temporaire, car les juges créent maintenant un comité composé de 4 experts du secteur agricole qui étudieront ces lois et entendront les arguments du gouvernement et des représentants syndicaux avant de rendre leur rapport dans les 2 mois. Les dirigeants du mouvement, eux, refusent ce processus, comme l'explique Balbir Singh Rajewal. Il est le président du syndicat Bharat Kisan Union.
La création de ce comité est une tactique du gouvernement pour détourner l'attention, réduire la pression sur le gouvernement et faire accepter ces lois. Les membres de ce comité se sont déjà tous exprimés en faveur de ces lois, donc nous n'apparaîtrons pas devant eux et nous continuerons notre mouvement.
8 sessions de négociations ont déjà eu lieu depuis décembre entre le gouvernement et les syndicats de fermiers, mais elles n'ont débouché sur aucune avancée, car les agriculteurs ne réclament qu'une chose, le retrait total de ces 3 lois.
Sébastien Farcy, correspondant de RFI et France Culture en Inde. L'Inde, où d'une importante fête hindoue doit être célébrée à partir de demain et pour plusieurs semaines, des milliers de pèlerins ont déjà commencé à affluer sur les rives du Gange et il pourrait être 1 million dès demain, ce qui fait redouter une augmentation de la circulation du coronavirus. La météo, il neigera demain des Ardennes à la Lorraine et à l'Alsace et Météo France signale un risque d'avalanche fort sur les Alpes du Nord, de la pluie ailleurs, sauf sur les régions méditerranéennes où le soleil résistera. Si l'on met à part les zones exposées à la neige, il fera 4 à 8 degrés dans les terres demain matin, 7 à 11 l'après-midi, jusqu'à 15 en bord de Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.